Une responsable du ministère de la Santé a démissionné aujourd'hui en dénonçant l'échec des autorités à ralentir la propagation du nouveau coronavirus dans le pays où les cas ont augmenté, des restrictions ont été rétablies.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous servir. Et avec moi dans le studio, Marie-Claude Cattier, 40 ans, originaire de la Côte d'Ivoire.
Bonjour Nathalie.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de vous avoir avec vos gâteaux.
Plaisir partagé.
Voilà, pour ceux qui ne nous voient pas, Marie-Claude est venue avec des gâteaux qu'elle a créés elle-même. Marie-Claude a 40 ans, elle est originaire de la Côte d'Ivoire. Elle s'est lancée depuis 2017 dans le cake design.
Ici aux États-Unis, oui.
J'aime bien le terme en anglais, autrement dit, la création artistique de gâteaux.
Exactement.
Hein, vous êtes artiste pâtissière, encore merci d'être avec nous. Et pour ceux qui peuvent le voir à travers Facebook... Là, ce sont certaines de vos créations magnifiques, inspirées
merci,
de l'Afrique.
Merci.
Alors, on revient un petit peu sur votre parcours. Mm-hmm. Vous avez été traductrice à Thomson Reuters. Et un jour, vous avez décidé de vous lancer à 100% dans une activité qui, jusque-là, était une passion. Donc, le cake design.
Hein.
Mm-hmm. En 2011, après la naissance de votre cinquième fils...
Oui.
Vous avez 5 enfants.
5 fils.
Tous des garçons.
Que des garçons.
Extraordinaire. Vous vous retrouvez donc au chômage et vous décidez de vous occuper en vous initiant la pâtisserie pour la famille. Donc, vous avez créé, et vous étiez à ce moment-là à Abidjan, donc vous avez créé Marie Cakes sur les bords de la lagune Ébriée. Et depuis 2017, vous êtes aux USA, c'est ça?
C'est cela.
Aux USA, avec des nouveaux challenges. Vous avez créé notamment Bounty.
Bounty Cakes.
Bounty qui veut dire le temps de la prospérité en Guéret.
En Guéret,
voilà. Ça
ma mère est originaire de l'Ouest, donc en Guéret, Bounty.
Vous créez donc de très belles pâtisseries
merci.
Avec des designs originaux inspirés de l'Afrique, comme on peut le voir.
Ben
ceux
oui.
qui ne le voient pas doivent être très frustrés, vraiment, parce que c'est magnifique,
merci,
c'est extraordinaire.
Nathalie.
Voilà, on a un petit peu tout dit sur vous, en tout cas. En bref, on va
je
dire...
Bien brossé, bien
la question n'est pas là. La question, c'est l'artisanat, les métiers artistiques. Vous êtes en train de suivre votre passion. Vous êtes une intellectuelle et... Vous vous êtes lancé dans un métier totalement artistique, totalement manuel. Qu'est-ce qui vous a pris ?
Écoutez, je pense que le petit côté manuel, je l'ai toujours eu. Donc déjà depuis toute petite, j'étais un peu touche-à-tout, très artiste et tout. Je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas échapper à ce qu'on est vraiment. Quel que soit le métier qu'on a embrassé, quelle que soit la carrière qu'on a embrassée, il y a toujours cette passion qui demeure et qui, à un moment donné de notre vie, se révèle. Et voilà, j'ai pas pu résister à cet appel.
Mais en fait, vous aviez donc déjà débuté à Abidjan.
Oui.
Et c'est à partir de quand, finalement, que vous avez travaillé pour la presse? Parce que vous étiez déjà créatrice de gâteaux?
Oui, comme pour beaucoup, en tout cas, beaucoup de ménages en Côte d'Ivoire, pour ce que je sais, on a toujours une petite activité qu'on traîne un peu dans l'informel. D'accord? Donc, j'ai commencé avec cette pâtisserie-là, que je faisais à domicile. C'est toujours à la maison, client, ça et là. Jusqu'à ce que j'ai mon emploi à Reuters, mais ça m'a pas empêché de continuer. Donc j'ai poursuivi tout en développant Marie Cake.
C'est vraiment quelque chose que vous aimez et vous êtes très douée, il faut le dire.
Merci.
Parce que ça, ce qu'on voit, c'est vous. C'est un gâteau à 3 étages. J'aime beaucoup le support aussi. Décrivez-nous un petit peu ce
Alors,
gâteau.
Alors là, celui-là, c'est un peu, on va dire, l'inspiration féminine. J'ai essayé de représenter un peu d'abord nos couleurs. Quand je dis les couleurs, les couleurs de l'Afrique, on a un peu le marron, le noir, l'ocre, enfin... Et donc là vous avez
couleur de la terre,
couleur de la terre exactement.
Ouais,
Donc là pour le peigne, il symbolise la beauté. Donc c'est l'esthétique. Et vous pouvez voir que vous avez des symboles qui rappellent le bogolan, qui est une matière, enfin un tissu peint originaire des pays mandingues, donc du Mali, Malinké et tout. Et c'est moi, je suis très bogolan. Donc c'est vraiment, je sais pas, c'est une matière, c'est un design qui me parle beaucoup, avec des kouris qui sont également des des symboles toujours de l'Afrique, hein. Le kori qui était une monnaie d'échange qui est après devenu un petit accessoire de beauté et de voilà et ensuite par dessus vous avez cette femme. Donc
On a un buste voilà. Buste de femme.
Voilà, un buste de femme où j'ai voulu bien ronde avec un cou strié.
J'aime beaucoup son visage.
Voilà, avec des traits
elle est très typée. Elle a de beaux bijoux aussi.
Exactement.
Donc vous avez encore mis en avant cette féminité là.
Tout à fait.
Les bijoux,
voilà.
Et on voit aussi un joli
un petit drapé, exactement, avec la dorure à l'intérieur, donc l'or, l'esthétique. En fin de compte, l'Afrique, c'est ça, c'est du beau.
On va revenir sur la description de l'autre, qui est beaucoup plus sobre, mais qui est également magnifique.
Merci.
En Arabie Saoudite, la compagnie aérienne Flynas recrute des femmes saoudiennes à des postes de copilotes. C'est une première dans le pays. Une annonce survenue mi-septembre, quelques mois après la levée en juin 2018 de l'interdiction de conduire pour les femmes. Avant Flynas, une autre compagnie aérienne, Flyodeal, avait posté des annonces pour recruter des hôtesses de l'air saoudienne. La plupart des hôtesses étaient jusque-là étrangères, notamment philippines. Et malgré diverses réformes, l'Arabie Saoudite reste un pays très restrictif pour les femmes, avec un système de tutelle masculine. Elles doivent encore obtenir, hein, Marie-Claude, vous le savez, la permission de leur parent masculin le plus proche, mari, père, frère ou même fils, dans la plupart des domaines de leur vie, comme pour voyager ou se marier. Ce qui veut dire en fait que une femme, elle peut devoir demander à son propre fils, l'être qu'elle a mise au monde, la permission pour se déplacer notamment.
Oui, eh ben, écoutez, c'est, on va dire que c'est culturel quelque part, mais bon.
Marie-Claude, on passe rapidement sur la description de l'autre gâteau. Ça, c'est encore pour frustrer un petit peu plus nos auditeurs qui ne peuvent pas les voir. Mmh. Je vois un coquillage, il me semble,
exactement,
en bas, au premier étage. Là.
Oui. Écoutez, c'est toujours la même inspiration, comme on dirait, inspiration africaine. Comme vous avez dit, vous avez le coquillage, le gros kori, moi, je dirais, avec ce petit côté bleu qui rappelle un peu le ciel.
On voit l'océan, on voit le ciel, on voit la plage.
Voilà. Ouais. Et donc, le petit canari qui est le symbole les femmes de la
encore
les femmes,
et là c'est même le travail,
exactement, exactement,
l'artisanat,
exactement, et toujours la dorure que j'aime beaucoup utiliser également dans le travail, dans mes œuvres africaines, parce que l'or reste un matériau assez riche et important dans toutes les cultures, je dirais, en Afrique, donc pour moi voilà, c'est toujours la petite note noble, la petite note riche.
Si vous deviez expliquer un petit peu la différence ou certains parallèle entre votre activité quand vous étiez à Abidjan et celle que vous démarrez donc depuis 2017 ici aux États-Unis. Bon, on imagine qu'il y a plus de facilité, mais qu'est-ce que vous auriez à dire ?
Alors, il faut dire que à Abidjan, j'avais déjà réussi à asseoir mes bases, parce que c'était quand même à l'époque quand j'ai démarré en 2011, c'était un art qui était quasiment inconnu. Quand je dis quasiment inconnu, à part ceux qui avaient l'habitude de voyager et qui savaient ce que c'était qu'un gâteau recouvert de pâte à sucre. Mais on n'avait que des gâteaux classiques avec la crème au beurre, voilà. Et quand j'ai démarré, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Et je pourrais même dire que je faisais partie carrément des premiers, des pionniers, en fait, à Abidjan.
Dans la pâte à sucre en particulier.
Dans la pâte à sucre.
Et la décoration avec
exactement.
Plusieurs étages, comme
voilà.
Ça.
Parce que jusque-là, on avait soit c'était les choux, à la française, à la mode française, ou les étages, les escaliers et tout. Mais là, c'était vraiment le style anglo-saxon qui arrivait, les gens qui découvraient un peu, et ça a fasciné. Donc, ça a été beaucoup plus facile, l'intégration.
Et ça marchait bien à Abidjan?
Oui, par la grâce de Dieu, oui. C'est vrai que j'étais à un tournant où je recherchais maintenant à développer l'entreprise. Donc, il fallait maintenant avoir des financements pour,
C'était pas évident à trouver là-bas.
C'était pas évident à trouver. Surtout que j'ai démarré, moi, Marie-Cake, sur fonds propres et que petit à petit, j'ai fait grandir l'activité.
Paroles de femme. Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Après 8 ans de détention dans son pays, le Rwanda, l'opposante Victoire Ingabire, a été libérée le 15 septembre 2018 dans le cadre d'une grâce présidentielle accordée par le président Paul Kagame à plus de 2000 prisonniers. Madame Ingabire était condamnée à 15 ans d'emprisonnement pour conspiration par le terrorisme et la guerre et minimisation du génocide de 1994. Elle avait été arrêtée en 2010, peu de temps après son retour au Rwanda, alors qu'elle voulait se présenter à la présidentielle. Eric Manirakiza lui a demandé de s'exprimer sur son séjour en prison. On l'écoute.
Entre le 4000 et l'expérience que j'ai essayé d'avoir de la patience, savoir écouter les autres et essayer de trouver une bonne entente entre ces trois dernières années. C'est là où j'étais en prison avec les autres. C'est le milieu où il y a les gens de différents niveaux, que ce soit intellectuel, que ce soit la manière de vivre, tout ça. Donc c'est un endroit où il faut vraiment apprendre à vivre avec tout le monde, à écouter tout le monde.
Un moment aussi pour méditer sur votre combat politique?
Oui, bien sûr. C'est un bon moment aussi de prendre le recul et de voir comment améliorer la lutte et comment arriver à l'objectif que nous nous sommes assignés, de lutter pour l'ouverture de l'espace politique au Rwanda.
C'était l'opposante rwandaise Victoire Ingabire. Elle était jointe à Kigali. Vous écoutez Le Monde au féminin avec comme invitée Marie-Claude Cattier, qui est donc artiste pâtissière, comme on peut le voir ici, encore une fois, pour ceux qui peuvent le voir. Donc, le côté financier pour ouvrir une petite affaire, une affaire d'artisanat aux États-Unis, vous débutez quasiment. Vous avez trouvé des pistes là, des pistes intéressantes?
Oui. Alors, je pense qu'il y a des pistes assez intéressantes même, beaucoup plus intéressantes, je dirais, beaucoup plus de facilité ici. Mais la condition, c'est d'avoir au moins d'être régulier, d'être régularisé.
Il faut la clientèle.
Écoutez, la clientèle, ouais. Oui, on peut l'acquérir avec le temps. Mais en fait, quand je veux dire, je parlais de pistes, je parle surtout de financement, qui n'est pas à la portée de tout le monde, bien sûr.
Parce qu'il faut avoir une boutique.
Il faut avoir une boutique, il faut être régulièrement installé. L'entreprise doit être enregistrée.
Et pourquoi vous louez pas quelque chose, un petit local, pour avoir une petite boutique? C'est un peu trop tôt?
C'est un peu trop tôt. Pour l'instant, je suis au stade où j'essaie de toucher un peu, de me faire connaître, de rentrer dans certains
milieux. Acquérir d'abord la clientèle.
Une certaine clientèle.
Un certain nombre de clients.
Voilà.
Et les Américains pure souche, ils aiment bien, j'imagine.
Ah oui,
ils adorent ça.
Ah oui. J'ai été très surprise. Au départ, quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, allez, on va partir sur du bouche à oreille. Des amis, des parents, ça et là. Mais après m'être inscrite sur certains sites ici, j'ai été surprise de voir que ces Américains, Afro-Américains surtout, qui me contactent pour des commandes de gâteaux. Et ça, j'ai été vraiment agréablement surprise. Et le goût est différent. Du coup, quand je fais des séances de tasting, je suis toujours un peu stressée parce que je me dis, est-ce qu'ils vont aimer le goût qui est carrément différent de ce qu'on fait ici? Mais ils adorent. C'est vraiment le style génoise fondante, crème au beurre, mais vraiment bien et tout, comme on le fait bien en France et tout. Et là, je suis vraiment agréablement surprise. C'est un public qui est très ouvert. Et
vous aimeriez remonter ce type d'affaires en Afrique un jour ou pas?
Ah oui, définitivement. Mais ce serait peut-être pas toujours dans le même registre, mais plutôt dans la formation. Parce que je pense que nous avons besoin de former nos populations, nous avons besoin d'être formés. Surtout pour ce genre de métier, il y a encore des lacunes. La Côte d'Ivoire, qui est un pays francophone, qui n'est pas encore très familier avec ce genre d'art anglo-saxon, pour moi, ce serait la formation.
Mais on mange beaucoup de gâteaux. Avec la chaleur, je sais pas, j'imagine, le gâteau, c'est moins évident en Afrique, non? On aime bien manger des gros gâteaux comme bien gras.
Ah oui. Ne vous inquiétez pas pour ça. On n'a pas de problème. Il fait chaud, allez, on sort le gâteau, on fait
c'est
le mariage.
Vrai.
Il n'y a pas de problème. Surtout que maintenant, nous avons beaucoup de salles à Abidjan pour les événements. Donc, tout se fait presque en salle, climatisée. Il y a quand même des commodités pour ce genre de travail.
Si jeunesse pouvait.
Les Nigérianes tentent de s'imposer dans l'industrie artistique de leur pays, un secteur encore largement dominé par les hommes. Notre correspondant Gilbert Tamba a rencontré des artistes peintres au Centre d'art et métiers d'Abuja.
Situé dans un quartier chic d'Abuja, la capitale fédérale nigériane, le centre des arts et métiers Culture Code Art Hub est une véritable ruche de l'industrie artistique du pays. C'est ici que l'artiste Chinze Ojebo gagne sa vie en faisant ce qu'elle aime le plus au monde, peindre. Après 25 ans de carrière, Chinze est devenue célèbre non seulement pour la qualité de ses tableaux, mais aussi parce qu'elle dirige aujourd'hui l'association des femmes peintres d'Abuja.
L'industrie artistique nigériane est en pleine amélioration. Le Nigeria compte plusieurs artistes, beaucoup d'écoles d'art et métiers. Et chaque année, de nouvelles promotions sortent de ces écoles. Nous avons donc besoin d'espaces où ils peuvent exposer leurs talents parce que l'objectif d'un artiste est de voir son travail fini et vendu. Et c'est ce que nous faisons ici.
Comme Chinze, Dofan Gwagul est une autre artiste qui émerge dans ce secteur dominé par les hommes. Elle est aussi heureuse de voir ses peintures s'imposer dans un marché très compétitif.
Mon expérience en tant qu'artiste peintre est que j'aime m'exprimer par mon travail et je m'inspire aussi de l'expérience des autres. En plus, je pense à la société et à la manière dont je peux me servir de l'art pour communiquer.
Le Centre des arts et métiers Culture Code Art Hub attire un grand nombre de visiteurs. Certains d'entre eux trouvent que le Centre des arts et métiers d'Abuja est un bon endroit où passer le temps. C'est le cas du docteur Timothy Umwezi, venu des États-Unis pour des vacances au Nigeria.
En venant ici, par rapport à d'autres galeries que j'ai déjà visitées, il y a vraiment une grande créativité dans ce centre, sans aucun doute. Les peintures sont tout simplement magnifiques.
Avec le développement croissant de l'industrie artistique du Nigeria, le Centre des arts et métiers d'Abuja met en valeur les meilleurs talents du pays. Il s'ajoute ainsi aux nombreuses destinations touristiques que compte le Nigeria. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Et oui, et c'est la jeunesse pouvait.
Vous écoutez Le Monde au féminin avec comme invité Marie-Claude Cattier. Vous avez entendu ces Nigérianes, là, finalement. C'est encore moins évident en Afrique, hein, quand on est peintre, de se faire connaître. Quel sentiment vous avez par rapport au fait, finalement, que c'est beaucoup plus facile ici, pour vous, en tant que femme, de vous exprimer à travers tout ce que vous souhaitez faire, et que c'est beaucoup moins évident en Afrique?
Alors là, je pense que à ce niveau, tout dépend aussi de la culture. Je veux dire, c'est vrai qu'en tant qu'Africain, on reste très ancré dans notre culture. Mm-hmm. Et malheureusement ou heureusement, je dirais, la culture se préserve quelque part. Maintenant, pour ce qui est de la position de la femme dans la société africaine, c'est clair que cette position-là, on l'hérite un peu de nos mères. Mais nous sommes à une époque où les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de bouger.
Et ça bouge vite en plus.
Ça bouge vite. Mais on dira quand même que notre civilisation telle que nous l'avons moderne aujourd'hui est beaucoup plus jeune que celle que nous avons ici aux États-Unis, par exemple. Donc, avec le modernisme qui est naissant chez nous, c'est quand même une situation qui est en train, qui aura tendance à évoluer, qui évoluera vite, je pense. Tant que la femme continue de se battre, et la femme a une importance et un poids très important dans la société africaine.
Mais il y a certainement beaucoup de femmes artistes qui s'ignorent en Afrique. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Faut foncer, faut y aller.
Ben oui, en fait, elles s'ignorent peut-être parce qu'elles n'ont pas la possibilité, elles n'ont pas le cadre qu'il faut pour développer leurs aptitudes. Mais oui, je dirais surtout qu'il faut qu'elles y aillent, mais je lancerai un appel aux autorités. Quand je dis aux autorités, c'est aux autorités compétentes, au ministère de la femme. Il faut un coup de pouce, de toutes les façons. Parce que,
Ce centre qu'on vient d'écouter là, au Nigeria, finalement.
Exactement, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui restent encore analphabètes. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas la possibilité d'aller vers l'information. Donc, c'est aux autorités compétentes d'ouvrir les vannes et permettre à ces femmes-là de dire, OK, il y a un cadre qui peut vous prendre en charge et qui peut vous permettre d'avancer.
Entre parenthèses.
Une Togolaise a monté une entreprise artisanale de chaussures haut de gamme qui sont créées notamment à base de pneus recyclés. Notre correspondante Kayi Lawson a visité l'atelier de Mablé Agbodan. Voici son reportage.
Le Togo produit des chaussures qu'il exporte. Ces chaussures portant le label Femme sont produites dans les ateliers du Club des métiers d'art et d'artisanat du Togo. Un centre créé par Mable Agbodan, une Togolaise architecte d'intérieur et designer qui, de retour de Londres, a voulu donner l'opportunité aux artisans togolais de mieux se vendre.
Je pense que l'artisan africain, spécialement togolais, a beaucoup de talent, mais nous manquons beaucoup de précision et de rigueur dans nos réalisations. Et c'est ce que je veux apporter à l'artisanat de notre patrie.
Cette unité de chaussures, qui a commencé sa production en avril 2018, fabrique une trentaine de paires par mois. Pour un début, la production se fait sur commande. Et pour finir, une paire de chaussures faites avec du tissé, du cuir pour la semelle intérieure et du pneu recyclé pour la semelle externe, il faut 3 jours à un artisan cordonnier. Selon Idrissa Soulé, artisan dans l'unité de maroquinerie, ce sont les matières utilisées qui font la spécificité des chaussures qui sortent de leur centre.
On utilise plus les tissus tissés de Togo, les cuirs aussi locaux et aussi de différents cuirs que les gens ne pensent pas en avoir. On a même des cuirs de poissons.
L'unité de maroquinerie ne produit pas que des chaussures. On y fabrique également des sacs, des pochettes, des ceintures et même des trolleys faits avec du bois, du fer, du sac de jute et du pneu. Pour séduire ses clients, Mable est mise sur la matière première et sur la finesse du travail.
Nous avons le grand défi d'utiliser que les produits locaux qui est fait en Afrique ou au Togo. En tout cas, les gens sont plutôt après la quantité qu'après la qualité. Je préfère une paire de chaussures que d'en faire 10, parce que la paire que je ferai dans le temps que je ferai 10, et je pense que ça prendra plus de temps dans le temps à l'utiliser. C'est le temps qu'on passe sur une œuvre qui fait la qualité de l'œuvre.
Situé à Goleke, dans la banlieue est de Lomé, le Club des métiers d'art et d'artisanat du Togo dispose de différents ateliers, notamment de menuiserie, de tapisserie, de décoration d'intérieur et de couture. Kay Lawson, Lomé, pour VOA Afrique.
Marie-Claude, vous avez entendu, c'est encore un beau reportage. Hein. On a envie de porter ses chaussures comme on a envie de manger vos gâteaux, hein, des chaussures de qualité. Vous avez entendu cette dame, elle a dit, c'est le temps qu'on passe sur l'œuvre qui fait la qualité de l'œuvre. J'aime beaucoup ça. Combien de temps vous passez à peu près pour créer un gâteau comme celui-ci, là, le premier qu'on a cité tout à l'heure?
Alors, pour la confection du gâteau même, je dirais environ 2-3 heures. Pour la génoise, la crème. Mmh, okay. Maintenant, pour la décoration, des fois, je peux aller à plus de 2-3 heures. Tout dépend du design. Mais pour celui-là, on va dire à peu près 2 heures.
D'accord. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la formation pour terminer. Mmh. Le savoir-faire, parce qu'on le voit, hein, c'est notoire. Vous avez vraiment un savoir-faire extraordinaire. Vous voulez faire de la formation en Afrique, mais pourquoi ne pas le partager ici, ce savoir-faire aussi?
Écoutez, c'est vrai qu'quand on arrive aux États-Unis pour un tel métier, on a un petit complexe d'infériorité parce qu'on se dit
pas.
Parce qu'on est arrivé en tout cas personnellement quand je suis arrivée j'étais ok j'arrive aux États-Unis, les États-Unis c'est quand même le lieu où ça se fait le plus mais petit à petit je me rends compte que non, c'est tellement grand qu'on en a besoin
parce que vous avez du talent. Quand on a du talent, le talent c'est universel,
voilà,
ça c'est quelque chose qu'on peut pas vous prendre, c'est à vous, c'est vous qui êtes capable de le faire.
Exactement.
Et pas d'autres. Donc vous n'avez pas envie de former des jeunes?
Si, j'aimerais bien, pour moi en tout cas ma prochaine orientation ce sera la formation.
C'est vraiment un beau métier que vous faites, Marie-Claude.
Oui,
un petit mot pour terminer, un petit encouragement pour l'Afrique, les femmes africaines.
Ah oui, il faut croire en ses rêves. Moi, je dis toujours, c'est bien de rêver, parce que quand tu ne rêves pas, tu es loin en fait de ta vie, de celle.
Il faut même pas avoir honte de rêver.
Exactement.
Même quand on est très âgé, on continue de rêver. On rêve tout le temps.
Mais quand on rêve et qu'on se réveille, quand on se réveille maintenant, il faut foncer, parce qu'on se dit, ok, j'ai rêvé de ça. Maintenant que je suis réveillée, il faut que j'y aille. quel que soit ce que ça va me coûter, il faut que j'y aille. Donc c'est beaucoup de persévérance, de challenge, c'est vrai. Mais moi, j'ai ma petite botte secrète, c'est mon Dieu. Je suis très accrochée à mon Dieu et je pense que c'est ma botte secrète.
Merci beaucoup, Marie-Claude Cattier, pour votre grande passion et ce que vous faites. Je remercie beaucoup Simsulou Mami à la production et bien sûr nos très chères auditrices, nos très chers auditeurs. À très bientôt, au revoir.
Arrête.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.